Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de l'émission littéraire de Radion Wagon Livre. Et ce soir, à bord de Wagon Livre, j'invite et j'y reçois Marion Cigaud. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Très heureux de t'accueillir à bord de Wagon Livre pour évoquer ce soir ton dernier livre, bon, qui a paru en 2010, fin 2010. Livre d'histoire paru aux éditions de Bourgogne et qui a pour titre « Le mystère du tableau de David ». Alors, ainsi posé, le mystère du tableau de David, on se demande de quoi il s'agit. Et tu nous ramènes à la période de la Révolution française et tu nous ramènes aussi dans Lyon, au travers d'une grande famille aristocratique qui, finalement, possédait un château que tous les que toutes les iconaises et iconais connaissent, le château de Saint-Fargeau. Nous allons bien sûr parler d'un tableau ce soir, nous allons revenir sur la vie de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, sur lequel tu reviens en nous expliquant quel étrange personnage il pouvait être, on y reviendra d'ici quelques minutes. Je me dois, Marion, de rappeler que ce livre d'histoire, Le mystère du tableau de David, n'est pas ton premier livre, tu as derrière toi un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs. Finalement, tu as débuté dans l'écriture en 89 avec Le Petit Coco chez Sylvie Messinger, chez Flammarion avec un ouvrage paru donc en 1991 et qui a pour titre Les deux cœurs du monde du kibbutz à l'intifada, chez L'Armatan 94, Russe errant sans terre promise, aux éditions de l'Atelier avec Libre femme de Palestine, et puis tu as été récompensé par le prix Palestine Mahmoud Amchari en 98 suite à un ouvrage paru à l'Atelier qui avait pour titre Mansour Kardosh, un juste à Nazareth. Et alors tu continues et tu enchaînes toujours aussi féconde en 99 aux éditions de l'Atelier La terre promise aux Sud-Africains, et puis tu reviens à l'histoire française chez Jacqueline Chambon en 2008 avec un ouvrage intitulé La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, et puis tu as choisi de revenir sur le régicide de Louis XV, celui qui porta un coup de canif au roi Louis XV, donc c'est Damien, Mourir à l'ombre des lumières, l'énigme Damien, aux éditions Jacqueline Chambon, donc en 2010. Et ce soir, nous parlons de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Alors, Marion, c'est Lepelletier de Saint-Fargeau, famille aristocratique, que je te demande de présenter, parce que cela permet aussi de situer les origines sociales de l'homme qui nous intéresse ce soir, à savoir Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Alors, qui sont ces Lepelletier de Saint-Fargeau ?
Lepelletier, c'est un nom de métier. Qu'est-ce que c'est qu'un pelletier ? C'est une personne qui travaille les peaux, hein, pelletier, elle travaille dans la pelleterie. Les Lepelletier, à l'origine, ce sont des bourgeois. Des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui habitent dans les villes et qui font des métiers, qui exercent des métiers. Retrouver les Lepelletier, devenir Lepelletier de Saint-Fargeau et faire partie des plus grandes familles aristocratiques de France, pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'a été la centralisation monarchique au lendemain, à l'issue du Moyen-Âge et pendant la période moderne, c'est-à-dire 16e, 17e siècle, la centralisation monarchique a fait que les rois, pour pouvoir tenir tête à l'aristocratie, à la noblesse des campagnes, a donné du pouvoir à d'anciens bourgeois, pour remplacer, au niveau de la justice, les aristocrates. C'est-à-dire que les rois ont anobli des bourgeois à qui ils ont donné comme rôle de rendre la justice en son nom dans les territoires de France. Donc ça a été pour rabaisser la noblesse d'épée, qui était la noblesse d'origine et qui avait beaucoup de prétentions à gouverner et à faire de l'ombre au roi. Et les Lepelletier sont ces gens qui ont été anoblis en devenant juges, mais cet anoblissement était un privilège de l'ancienne royauté, il était transmissible, une fois qu'on était noble, on ne pouvait plus revenir en arrière. Donc les Lepelletier sont des grandes familles aristocratiques immensément riche, parce que la magistrature était une profession, la justice n'était pas rendue gratuitement sous l'Ancien Régime, la justice était payante, les magistrats se faisaient des fortunes considérables, et les Lepelletier ont fait des dynasties. Alors on dit Lepelletier de Saint-Fargeau, parce qu'une branche des Lepelletier a acheté la seigneurie de Saint-Fargeau et y a fait souche. Voilà. Donc il y avait les Lepelletier de Saint-Fargeau, les Lepelletier de Rosambeau, les Lepelletier de ceci, les Lepelletier de cela. Et ils étaient donc du juge au Parlement de Paris.
Alors attachons-nous à Michel Lepelletier. Alors Michel Lepelletier, lui, voit le jour le 29 mai 1760, rue de Sévigné. C'est dans le quartier du Marais à Paris. Il se marie en 1780 avec Marie-Adélaïde Louise de Joly, dont il aura une fille unique, Suzanne, qui, elle, voit le jour en 1783. Alors, Suzanne, il faut bien la garder présente en mémoire, parce que nous aurons, bien évidemment,
elle est très importante dans l'histoire.
L'occasion d'en reparler par rapport au destin de ce mystérieux tableau de David, qui est tout le thème de ton livre. Alors, Michel Lepelletier est donc né sous le règne de Louis XV, et il devient juge, en fait, comme tous ses ancêtres, il devient lui aussi membre de cette noblesse parlementaire qui rend la justice. Alors, il est quand même déjà, on peut dire qu'il a déjà des positions très anticléricales. C'est un homme très imbu de lui-même, il a déjà des positions très anticléricales.
C'était un peu le propre de la magistrature d'Ancien Régime. La magistrature d'Ancien Régime, c'est là où a éclos le mouvement janséniste. Et le jansénisme avait comme caractéristique d'être un mouvement catholique, c'est-à-dire qui n'avait pas rompu avec Rome, mais qui professait des idées proches du protestantisme, dans ce sens que les jansénistes voulaient que les laïcs puissent être juges en matière ecclésiastique et en matière théologique. Et la seule façon de l'être en pays catholique, c'était d'être anticlérical, puisque bien évidemment la position de l'Église était absolument contre. Donc en fait, l'anticléricalisme des gens de robe est quelque chose qui n'était pas du tout une spécialité des Lepelletier, ça a été une spécialité des parlements. Les parlements ont toujours voulu être plus papistes que le pape et plus catholiques que le Vatican. Et ils ont professé et appliqué un anticléricalisme qui a été jusqu'à être très virulent, puisque ce sont eux qui ont obtenu l'interdiction des jésuites, par exemple.
Mais Michel Lepelletier a tout de même, sur ses terres de Saint-Fargeau, il prend soin de ses paysans au moment de l'hiver terrible qui d'ailleurs va provoquer les événements de 1789, les mauvaises récoltes, le froid terrible, la famine. Il est quand même très attentif au bien-être, enfin j'exagère un peu, mais disons qu'il a un certain regard de compassion, il essaie d'être vigilant par rapport au bien-être de ceux qui le servent sur les terres de Saint-Fargeau.
Alors moi ce que je vois dans la façon de faire de Michel Lepelletier vis-à-vis des gens qui vivent sur ces domaines, c'est que c'est simplement un bon seigneur dans ce sens que il s'occupe de son territoire, de sa seigneurie, et s'occuper de sa seigneurie, si c'est pas en venant en aide aux gens qui lui payent leurs impôts et ses droits, ça se retourne contre lui. C'était simplement un seigneur avisé, intelligent, avisé. Et je suis pas sûre que ce soit par compassion. D'ailleurs, je ne dis pas non plus que ça n'était pas par compassion. Mais un seigneur avisé au moment où ces gens n'ont plus à manger, s'il veut que les revenus rentrent, c'est à lui de venir à leur secours. S'il n'y a plus personne pour cultiver la terre sur ses domaines, il s'appauvrira. Donc je dirais que c'est un seigneur avisé. Voilà.
Nous sommes ce soir en compagnie de Marion Sigaud, auteur du Mystère du tableau de David, paru aux éditions de Bourgogne. Et nous sommes au cœur de la Révolution française de 1789, avec un refrain célèbre apparu dès 1790 et que nous allons écouter interpréter par une grande dame de la chanson, Édith Piaf. Voici « À ça ira ».
Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates, on les pendra.
Radion à Auxerre, 95.
Michel Le Peltier a 29 ans lorsque débute la Révolution française et il est député de la noblesse aux États généraux.
Tout à fait, tout à fait.
Et il ne va pas rester longtemps dans, j'allais dire, du côté de ses pairs de l'aristocratie. Rapidement, il est gagné, conquis, séduit par les idées, dans un premier temps, du tiers-État.
Du tiers-État, tout à fait. Il est happé par le tiers et il le fait, dit-il par conviction. Moi, j'en ai pas parlé avec lui, donc je ne peux pas connaître sa sincérité. Mais il fait partie de ces aristocrates qui, et ils étaient quand même assez nombreux, hein, qui sont passés au tiers. Et il y restait et il a siégé jusqu'à sa mort, à gauche de l'Assemblée en plus. C'est-à-dire que c'était un des hommes les plus riches de France. Et il s'est mis assez rapidement avec la gauche de l'Assemblée.
Est-ce que cela était vraiment ressenti comme très paradoxal à l'époque, ou est-ce qu'on pensait que le parcours de ce grand seigneur de Saint-Fargeau était un parcours sincère dans son adhésion aux idées du tiers-État et ensuite de l'enthousiasme révolutionnaire?
Je n'ai pas d'éléments pour dire que quiconque lui ait jamais reproché ses origines aristocratiques. Mais comme il était vraisemblablement également franc-maçon, allez savoir, moi je ne peux pas savoir ce qui se disait par derrière. Il y avait quand même des solidarités invisibles et pas forcément perceptibles qui pouvaient éventuellement le mettre à l'abri. Mais cela dit, ça n'est qu'une hypothèse que j'avance là. Je pense qu'il n'a jamais été... Non, ce n'est pas une hypothèse. Je n'ai pas retrouvé de reproche qu'on lui ait jamais fait de ses origines. Jamais. Il a toujours été considéré comme un authentique patriote, un authentique montagnard, un authentique député révolutionnaire. Il n'y a jamais rien eu contre lui. Maintenant, c'est peut-être son appartenance à la franc-maçonnerie qui l'a mis à l'abri. Je n'ai pas de preuves. J'émets l'hypothèse. Voilà.
Alors, bien sûr, 14 juillet, Marion prise de la Bastille. La nuit du 4 août 1789. Alors là aussi, c'est une nuit extrêmement importante qui voit l'abolition des privilèges et de certains droits seigneuriaux. Et Michel Le Peltier va voter pour l'abolition des privilèges, puisque notre grand seigneur aristocrate de Saint-Fargeau a rejoint les révolutionnaires et les hommes du tiers-état. Et arrivent les 20 et 21 juin 1791. Donc là, on a fait quand même un bond dans le temps. Il y a bien sûr cet épisode presque digne des images d'Épinal, la fuite de la famille royale à Varennes, qui va alors là montrer à Michel Le Peltier de Saint-Fargeau fou de rage et de colère contre la personne du roi.
Alors c'est très très étrange ce témoignage qu'on a de plusieurs personnes qui l'ont vu piquer ce coup de sang homérique alors qu'il était tranquillement en train de jouer au billard au club de Valois. Quand on lui a appris la fuite du roi, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était un homme tout à fait placide, gracieux, aimable, toujours égal d'humeur, a piqué une colère, on a cru qu'il allait faire un malaise. Il était absolument hors de lui. Et j'ai retenu cet épisode comme étant peut-être un coin à enfoncer dans l'image lisse et sans aspérité de ce grand révolutionnaire, de ce grand seigneur révolutionnaire. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à retenir, et nous en reparlerons plus tard. C'est quand même un événement un petit peu étrange, de cette colère.
Je continue donc à dérouler les événements. Il y a la journée du 10 août 1792. Alors Marion, le 10 août 1792, c'est une date importante. Parce que quelque part, on peut déjà penser que c'est la fin de la monarchie.
C'est la fin de la monarchie. Le peuple de Paris envahit les Tuileries, le roi est fait prisonnier, c'est-à-dire que le roi n'est plus le roi.
Il est déchu aussi.
Il est déchu, il n'a plus le pouvoir, il est fait prisonnier, il est arrêté. Donc la République ne sera pas proclamée avant encore quelques semaines, mais c'est déjà plus la royauté.
Et alors, le roi est arrêté. Marie-Antoinette également, bon, nous connaissons toujours ces images de cette famille royale, la prison du temple, enfin, on imagine l'angoisse, la terreur pour cette famille qui est dépassée par...
Puisqu'elle avait vécu dans la soie et qui se retrouve
dans des cachots humides,
terribles.
Oui, Madame Veto.
Oui, avec des gens qui manifestent sous les fenêtres. Enfin, oui, ça a été vraiment une épreuve terrible.
Commence le procès de Capet, de celui qu'on appelle Capet de Louis XVI, le 7 novembre 1792. Et Michel Le Pelletier va, ainsi que tous les membres de la Convention, va écouter les débats, la défense du roi.
Et les veilles participaient, parce que Michel Le Pelletier avait un projet. Comme il était magistrat, il avait participé aux commissions de transformation de la justice. Il était dans toutes les commissions qui ont accouché de la nouvelle justice, de la justice dont nous avons hérité maintenant.
Du code pénal.
Du code pénal, voilà. Et Michel Le Pelletier avait préparé un code dans lequel il prévoyait l'abolition de la peine de mort. Il était contre. Sauf, disait-il, dans le cas de... Et en fait, il a fait rentrer la mort du roi dans l'exception. Et c'est assez choquant. Je veux dire, quand on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort. On ne peut pas être contre la peine de mort, sauf... Donc il a présenté ce projet assez bâtard, où il était contre la peine de mort, sauf dans les cas où... Mais personne ne s'attendait à ce qu'il vote la mort du roi, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. On s'imaginait vraiment, de par ses positions, de par ses origines, et pour tout un tas de raisons, qu'il vote la grâce du roi. En plus, il était juriste. Le tribunal qui a jugé le roi était un tribunal complètement bâtard. On ne peut pas être à la fois juge et parti. C'était vraiment un procès calamiteux, le procès
inique,
du roi.
Totalement.
Bon, complètement. Je veux dire, c'est sur le plan du droit, on ne fait pas des choses comme ça. Lui, il était juriste. Donc il aurait voulu véritablement sauver le roi. Il disposait de plein d'arguments, vraiment de plein d'arguments, stricto sensu juridiques, en disant nous ne sommes pas habilités à juger le roi.
Et tu dis dans ton livre que la Constitution de 1791 avait proclamé que la personne du monarque était inviolable et sacrée.
Absolument. Il y avait toutes les raisons de ne pas condamner le roi. Il y avait toutes les raisons. D'abord, le tribunal n'en était pas un. Et en plus, constitutionnellement, la personne du roi était sacrée. Donc on ne pouvait pas le juger pour ce qu'il avait fait en tant que roi. Il n'était plus roi depuis, effectivement, la proclamation de la République en septembre. Mais il était jugé pour ce qu'il avait fait en tant que roi. Et en tant que roi, il était inviolable et sacré. Donc ce procès était absolument inique. Il était intenable. Et lui, qui était juriste, il était juge de métier. Il le savait, il pouvait le faire valoir. Il avait tout ce qu'il fallait pour sauver le roi. Tout.
Néanmoins, la peine de mort contre Louis XVI sera votée par 721 députés de la Convention et Louis XVI est guilloté le 21 janvier 1793.
Il a été condamné à mort avec sans sursis, alors que lui, le roi, avait demandé un sursis pour pouvoir organiser éventuellement une riposte, enfin pour sauver sa vie tout simplement. Donc on lui a refusé le sursis. Une fois que la mort était votée, elle allait être appliquée immédiatement. Ça a été une affaire de 3 jours. Et surtout sans appel au peuple. Parce que ce que disait Louis XVI, c'est demander au peuple ce qu'il en pense. Et il est évident que le peuple aurait sauvé le roi. Donc ça a été calamiteux. Cette condamnation à mort du roi a été calamiteuse. C'est un crime. Je ne dis pas qu'on n'avait pas des raisons. Je ne juge pas des raisons. Je dis que sur le plan juridique, c'est une ignominie. C'est une ignominie. Sur le plan humain, c'est encore autre chose. Moi, je suis contre la peine de mort en toute hypothèse. Donc, c'est autre chose. Ce n'est pas de ça que je juge. Mais Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, enfin Le Pelletier, puisque dans le courant de la Révolution, il a demandé qu'on retire les particules aux nobles et qu'on l'appelle désormais Michel Le Pelletier, sans le « de » derrière, il avait tout ce qu'il fallait, il disposait de tous les arguments pour sauver le roi. Et en plus, ce qui était quand même important de noter, c'est qu'il était attendu pour ça. Il y avait un tas de députés de la Convention qui étaient hésitants, et les hésitants pouvaient parfaitement penché du côté de la grâce du roi, si Michel Le Pelletier, qui était quand même un éminent personnage, demandait la grâce. Il aurait été immédiatement suivi. Et le fait que Michel Le Pelletier dise « je vote la mort du roi », ça a été un coup de massue pour tous les partisans de la grâce. Ça a été un coup de massue.
Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec notre invitée Marion Sigaud, historienne et auteure du « Mystère du tableau de David » paru aux éditions de Bourgogne. Nous marquons une pause, le temps pour nous de danser la Carmagnole, et c'est une version interprétée par Jacques Gauthier.
Madame Veto avait promis,
Madame Veto avait promis,
de faire égorger tout Paris,
de faire égorger tout Paris.
Mais son coup a manqué, grâce à nos canonniers.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Monsieur Veto avait promis,
Monsieur Veto avait promis,
d'être fidèle à son pays,
d'être fidèle à son pays.
Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Antoinette avait résolu,
Antoinette avait résolu,
de nous faire tomber sur le cul,
de nous faire tomber sur le cul.
Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Le patriote a pour ami,
le patriote a pour ami,
tous les bonnes gens du pays,
tous les bonnes gens du pays.
Mais ils se soutiendront tous au son du canon.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Amis, restons toujours unis.
Amis, restons toujours unis.
Ne craignons pas nos ennemis.
Ne craignons pas nos ennemis.
S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Oui, nous nous souviendrons toujours.
Oui, nous nous souviendrons toujours.
Des sans-culottes des faubourgs.
Des sans-culottes des faubourgs.
À leur santé, buvons. Vive ces francs-lurons.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Radionne.
Retour dans votre émission littéraire. Nous sommes ce soir en compagnie de Marion Sigaud, historienne et auteure aux éditions de Bourgogne d'un formidable essai historique intitulé « Le mystère du tableau de David ». Nous évoquons la vie de Michel Le Pelletier, poignardé à Paris le 20 janvier 1793, vers 17h, par un royaliste fanatique. Michel Le Pelletier est assassiné la veille de l'exécution du roi Louis XVI. Alors Marion, le moment est venu de nous raconter dans quelles conditions Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau a trouvé la mort.
Le roi doit être exécuté lundi matin. Nous sommes dimanche soir, c'est-à-dire la veille. Il est 17h, il est 5h. 5h de relevé, comme on disait à l'époque. Et Michel Lepelletier dîne dans un bouge. Alors pourquoi dîne-t-il dans un bouge? C'est pas le restaurant le plus proche de chez lui. C'est pas vraiment son monde, même s'il a, il a démocratisé ses manières depuis le temps où il était monsieur le président. Il a quand même les moyens d'aller dîner ailleurs. Toujours est-il qu'il dîne là régulièrement, tous les soirs, dans cette espèce de restaurant mal famé où on descend par des petites marches, c'est mal éclairé.
C'est chez Février.
Chez le sieur Février. Et il y a un homme qui s'approche de lui et qui lui dit « Vous êtes Michel Lepelletier, vous avez voté la mort du roi ». Et l'homme répond, enfin Michel Lepelletier répond « Oui, j'ai fait mon devoir » ou quelque chose comme ça. Et pan, il reçoit dans le ventre un coup de sabre jusqu'à la garde et il en meurt quelques heures après. Il est emmené, alors l'assassin qui s'appelle Nicolas de Paris, qui a fait changer son nom en Nicolas Paris, parce que c'était une époque où il ne fallait pas avoir un 2 devant son nom. Nicolas Paris réussit à s'échapper en laissant son sabre par terre, simplement parce que les gens du restaurant sont venus au secours du blessé, et qu'il y a plus urgent que de rattraper un assassin, c'est de venir au secours de la victime. Le commissaire du quartier se déplace, il interroge le mourant, il lui fait faire une déclaration. Le frère de Michel Lepelletier prend en charge le mourant, et il va mourir en disant « j'ai fait mon devoir, je meurs pour la patrie », enfin des choses très émouvantes, et il meurt au milieu de la nuit, donc quelques heures avant le roi. Puisque Michel Lepelletier meurt à environ 1h du matin, le 21, et que le roi va avoir la tête tranchée le 21.
Le 21 janvier 1793,
voilà, à 10h10. Et au moment où la convention apprend la mort de Michel Lepelletier, le roi vient de mourir, et tout le monde hurle, on a assassiné Michel Lepelletier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On vient de tuer le roi, et le grand événement, c'est on vient de tuer Michel Lepelletier.
La République a son martyr.
La République a son martyr. Et en fait, il y a une explication, il y a une hypothèse concernant cette émotion qui secoue la Convention, c'est que la culpabilité que peuvent éprouver ceux qui viennent de voter la mort du roi trouve son exutoire dans la révolte provoquée par l'assassinat de Michel Lepelletier. En fait, tout le monde hurle et il pleure et il sanglote et c'est le martyr, le martyr, le martyr. Ils vont lui faire des funérailles nationales absolument qui défient le bon sens et le sens commun. Enfin, c'est
prise en charge complètement réglée par
complètement
la Convention. Complètement
par la Convention, avec des défilés. C'est quelque chose d'absolument... boursouflé, exagéré, hystérique, on dirait, de nos jours. Hein. Et le mort va être panthéonisé, il va être emmené, suivi par des milliers et des milliers et des milliers de Parisiens, de gens de tout, de tout ce que les juges, les tribunaux, les commissaires, les policiers, tout ce que vous voulez. Tout le monde était derrière le convoi qui a mené Michel Lepelletier au Panthéon. Il a été panthéonisé avec, pareil, des sonneries de cuivre, des discours enflammés. Et alors, il y a une scène un petit peu amusante qui est rapportée par le journaliste Prudhomme. Félix, le frère, est monté près du catafalque où reposait son frère et il a fait un discours qu'il a terminé en se jetant sur le corps de son frère en disant que lui aussi voulait mourir martyr comme son frère. Et le journaliste qui était à côté a vu que quand il est descendu du catafalque, il avait les yeux secs. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'était de la comédie. Il y avait une grande part de comédie, il y avait une grande part de vraiment d'hystérie collective. Et ça n'a pas échappé à Prudhomme qui dit, s'il avait vraiment ressenti ce qu'il disait, il aurait eu des larmes aux yeux. En fait, il avait les yeux secs.
Thank you.
Une musique que l'on imagine accompagnant le convoi funèbre de Michel Le Peltier porté au Panthéon le 24 janvier 1793, premier martyr de la République. Vous avez donc pu entendre sur Radion la marche lugubre de François-Joseph Gossec, musicien officiel de la Révolution. Il a fait, pour les grandes cérémonies de la Révolution, la musique dont le peintre néoclassique David faisait la scénographie. Le mystère du tableau de David est le titre de l'ouvrage de Marion Sigaud, invitée de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Marion, tu nous as donné la version officielle de la mort de Michel Le Peltier de Saint-Fargeau.
Ah, alors il y a une version officielle, mais je la continue. On sait comment s'appelle le monsieur qui a tué Michel Le Peltier. Il s'appelle Nicolas de Paris. Donc on sait qu'il s'est évadé. Et quelques jours après, la Convention va lâcher ses chiens pour aller retrouver l'assassin, le meurtrier. On connaît son nom, c'est Louis. Bon. Donc on le cherche partout. Et on le retrouve quelques temps après à Forges-les-Eaux, en Normandie. La Convention est alerté que au moment où l'assassin a été arrêté, il a été repéré dans un hôtel, dans une auberge, et au moment où la police vient pour l'arrêter, il s'est brûlé la cervelle. Et la Convention, à ce moment-là, envoie deux députés reconnaître le corps pour s'assurer que c'est bien lui. Donc, on a toute une théorie qui correspond à tout ce qu'on pouvait en attendre, c'est-à-dire, l'assassin est connu, on le retrouve, on l'arrête, il se suicide et il est reconnu. Fermez le banc. On referme.
L'affaire est close.
L'affaire est close, on arrête tout. C'est-à-dire, maintenant, on va faire, et c'est là qu'on va pouvoir parler du tableau, on va faire une grande affaire de perpétuer la mémoire de ce premier martyr de la République, etc., etc. L'affaire est close. Mais elle ne l'est pas. Parce que si l'historien y regarde de près, Nicolas de Paris n'était pas tout seul. Le commissaire qui a pris la déposition était complice. Nicolas de Paris ne s'est pas tué à Forges-les-Eaux.
Alors que devient Paris, l'assassin
officiellement,
de Michel Le Peltier?
Alors officiellement, il est mort.
Officiellement, il est mort, suicidé. À Forges-les-Eaux.
Il était bien évidemment question de ramener le corps à Paris. Et non, pas du tout. On l'a enterré sur place. Et il n'a même pas voulu montrer le... Il a raconté qu'on avait trouvé, on était sûr que c'était lui, bien qu'il se soit brûlé à la cervelle, parce qu'on a retrouvé son extrait baptistère sur ses vêtements. L'extrait baptistère ayant pris du sang, il a été hors de question de venir montrer un spectacle dégoûtant comme ça aux gens de la Convention. Et alors à la Convention, tout le monde a gobé ça. C'est-à-dire qu'on a un mort où il n'y a pas de cadavre, on a un extrait baptistère couvert de sang qu'on ne veut pas montrer parce qu'on veut épargner la sensibilité de ces messieurs de la Convention. Alors attendez, 3-4 mois après les massacres de septembre, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Personne n'a moufté, personne n'a réagi. C'est une escroquerie, c'est une gigantesque escroquerie. Michel Le Peltier de Saint-Fargeau a certainement été tué par Nicolas de Paris, mais il n'était pas tout seul, ils étaient plusieurs. Et il y a des complicités, de toute évidence, à l'intérieur de la Convention. Le mystère du tableau de David, on y viendra, c'est une chose, mais le mystère de la mort de Michel Le Peltier de Saint-Fargeau, c'en est une autre.
Et puis, concernant l'identité de Michel Le Peltier, enfin en tout cas son engagement politique, tu soulèves dans ton livre une hypothèse selon laquelle Le Peltier serait un agent royaliste envoyé au cœur de la Révolution pour la compromettre. Ça, c'est une hypothèse. Alors
c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse.
Voilà. À partir du moment où on sait qu'il y a une version officielle et qu'elle est totalement mensongère, on est en droit de se dire qu'est-ce que ça cache. Bon,
oui.
Ça semble évident. Il y a plusieurs signes qui montrent que ce qu'on peut cacher, ça peut être effectivement que Michel Le Peltier de Saint-Fargeau aurait été exécuté pour trahison. Et trahison, c'est quoi? Ça veut dire que s'il était véritablement, on peut émettre l'hypothèse, envoyé pour sauver le roi et qu'il ne l'a pas fait, ça voudrait dire qu'il est rentré dans la Révolution, chargé de mission, on pourrait dire.
Donc ça veut dire, dans ce cas, que Michel Le Peltier aurait été tué par des royalistes
déçus de ce
que Michel Le Peltier n'avait pas fait, à savoir sauver le roi. Et puis on peut penser que Michel Le Peltier aurait pu être tué par les corrompus de la Révolution.
Alors qu'est-ce qui caractérisait le Palais Royal, le jardin du Palais Royal? Le jardin du Palais Royal pendant la Révolution, c'était le point de jonction entre les royalistes qui avaient les moyens de payer et les corrompus de la Convention qui étaient achetables. C'est-à-dire qu'il y avait au cœur de Paris dans ce jardin clos de toute beauté, hein, que je recommande à tous les gens qui ont la possibilité d'aller faire un tour à Paris, au cœur de Paris, le jardin du Palais Royal était le lieu de la jonction entre la contre-révolution et la révolution corrompue. Et les agents envoyés par la Convention pour retrouver l'assassin de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau étaient des corrompus, qui étaient payés, non seulement qui étaient payés par la contre-révolution, mais qui partageaient les mêmes femmes, les mêmes copines et qui faisaient leurs orgies dans les mêmes bouges. Et il y a plusieurs signes qui montrent que le personnage de Michel Lepelletier Saint-Fargeau est trouble. Il y a cette furie qui le prend au moment où le roi s'échappe, ressemble, alors ça n'est qu'une hypothèse, mais avançons par hypothèse, pourquoi pas, ressemble à une déception par rapport à ce qu'il attendait. À partir du moment où le roi s'évade, c'est beaucoup plus difficile de continuer de le défendre qu'avant qu'il le fasse. Si Michel Lepelletier était envoyé par les royalistes pour dire « bon, allez, voilà, il y a une révolution, on va se mettre dedans, puis on va essayer de la faire aller où on veut », dès que le roi s'échappe, on ne maîtrise plus rien.
Forcément, le roi est suspect et devient
on ne maîtrise plus rien. Voilà, oui, oui. On ne maîtrise plus rien. Et ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, il pique cette colère homérique parce qu'il sent que le sol se dérobe sous ses pieds et qu'il ne sait plus comment il va s'en sortir. Et effectivement, bien vu, il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti. La deuxième chose qui montre que son rôle est suspect, c'est qu'est-ce qu'il faisait au Palais Royal. Le Palais Royal était l'endroit le plus mal famé de Paris. Alors, il y avait des endroits mal famés, il n'y en avait pas de pire que celui-là. Et c'est vrai que la contre-révolution y côtoyait la révolution corrompue, mais y côtoyait les faux-monnayeurs, y côtoyait les assassins, les macros. Tout le monde se retrouvait au Palais Royal. C'est le lieu le plus mal famé de la capitale. Il pouvait aller manger à 50 mètres de là, sans être dans le Palais Royal. Et il en avait largement les moyens. Largement les moyens. Il n'était pas obligé d'aller là-dedans pour faire peuple. Au contraire. Au contraire. Pour se faire bien voir, il pouvait aller dîner dans un petit bouge sympa, n'importe où ailleurs qu'à cet endroit-là. Et ça, c'est suspect également. Vraiment, le Palais Royal, c'est le lieu de toutes les corruptions, de toutes les... C'est toute la contre-révolution. C'est pas seulement la contre-révolution. Toutes les exagérations, toute la terreur, tous les crimes commis par la Révolution ont été préparés au Palais Royal. C'est le lieu de toutes les horreurs. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi est-ce qu'il dînait là? Pourquoi? Et tous les soirs?
Mystère.
Mystère. Mystère, bon, moi, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Il faut douter, de toute façon. Tant qu'on n'a pas de preuves, il faut douter. Mais je suis vraiment encline à penser qu'il était véritablement un agent de la contre-révolution et que s'il s'est pas méfié et qu'il a été, assassiné parce qu'il a pas rempli son contrat. Règlement de compte. D'ailleurs, il avait reçu des menaces explicites au moment où il avait rejoint la contre-révolution. Il y avait plusieurs de ses parents qui avaient dit « Vous verrez, on saura quand même, quand tout rentrera dans l'ordre, on saura vous remettre en raison. » Et puis, les menaces n'avaient pas été suivies d'effet, vraisemblablement, parce qu'il était effectivement en service commandé. Il était en service commandé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Je ne sais pas. C'est le mystère, non pas du tableau de David, mais du personnage de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau.
Dernier intermède musical, avant de retrouver Marion Sigaud, notre invitée, pour évoquer ce tableau de David qui représente Michel Lepelletier de Saint-Fargeau sur son lit de mort, un peu de Fleurs de Lys à l'antenne. Avec la pause musicale suivante, il s'agit de Vive le Roi, interprété par Didier Barbelivien.
La Provence, les forêts, les cailloux. Vous parlez de la France.
proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Justement, il est temps maintenant, Marion, de parler du tableau de David. La convention va faire appel au peintre Jacques-Louis David pour figer sur la toile,
pour l'immortaliser,
immortaliser ce premier martyr de la République qu'est Michel Le Peltier. Alors un tableau de très grand format, 2 mètres de large et 1,50 m de haut, tableau qui va être accroché derrière le bureau du président de la convention. Et que représente ce tableau? Comment est-il rapidement organisé? Parce que ce tableau n'existe pas à l'heure actuelle.
Voilà.
Il a existé, mais nous ne le possédons pas. Et là, c'est le mystère du tableau de David. On rentre dans, au cœur du livre.
Alors, le tableau, d'abord, a été croqué, avant d'être fait, il a été croqué par David, place des Piques, actuellement place Vendôme, au moment où le corps de Michel Le Peltier avait été exposé sur ce grand catafalque devant lequel avait défilé tout Paris. Et à partir de ce croquis, et on voit...
Un dessin préparatoire.
Un dessin préparatoire, donc vraiment d'après nature. Et ce qu'il faut spécifier quand même, c'est que ça n'était pas dans les mœurs des Parisiens, ça n'était pas dans les mœurs de Français, d'exposer des morts comme ça. Ça ne se faisait pas. Exposer un cadavre nu avec une plaie béante, c'était vraiment choquant. C'était très choquant. Et ça faisait partie de ces changements de mœurs qui ont fait que la Révolution a été ce qu'elle a été. Donc David est reparti chez lui après la cérémonie avec son croquis et il a fait ce magnifique tableau dont il a fait cadeau à la Convention. Et la Convention, à partir de ce tableau, a fait faire des bustes de Michel Le Peltier, on a fait faire des copies. Il y a eu une espèce de culte de Michel Le Peltier qui a été organisé dans toute la France, à Auxerre même, où il avait, parce que Michel Le Peltier avait été président il était le premier président du Conseil général,
De Lyon.
Absolument. Il a été, donc, on a, sur le, on a le Conseil général de Lyon, le directoire de Lyon, on disait, à l'époque, a mis également son buste. Enfin, on a organisé tout un culte. À Saint-Fargeau, il y a eu un simulacre d'enterrement. Enfin, ça a été une espèce de folie qui s'est emparée de tout le pays. Et le cadeau de David, quand il a donné à la Convention ce tableau, ça a été considéré comme quelque chose de grandiose. Ça a été terrible parce que quand Marat est mort, David a refait un tableau de Marat dans sa baignoire et la Convention était quand même ornée par 2 cadavres. Ça donne un petit peu une idée de l'ambiance.
Donc le tableau représentant Michel Le Peltier représente donc le corps de Michel Le Peltier, donc dénudé, enfin poitrail.
Torse nu. Il est nu avec un drap sur le bas du corps.
Enroulé un peu à l'antique, de grands draps.
Avec la plaie béante et sanguinolente. Et il y a au-dessus...
En apesanteur, le sabre.
Voilà, en apesanteur, le sabre sur lequel il a marqué « Je vote la mort du tyran ». Voilà.
Sabre qui se trouve finalement prêt à tomber, une sorte d'épée de Damoclès.
Une sorte d'épée, tout à fait.
Prêt à tomber sur ou rentrer dans la plaie déjà de Michel Le Peltier. Donc ce tableau existe peut-être encore à l'heure actuelle. Qu'est devenu ce tableau, Marion?
Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, deux informations à donner sur Michel Le Peltier. Il est mort en laissant une fille, qui s'appelait Suzanne, qui avait 11 ans. Et il est mort en laissant un frère, Félix, qui a été vraiment le premier partisan de Michel Le Peltier. Félix avait une adoration pour son grand frère, une véritable adoration. Il a participé largement au culte. Et il a fait adopter sa nièce, Suzanne, par la Convention. Suzanne Le Peltier est devenue la première pupille de la nation française. Félix a apporté la petite fille, l'a prise dans ses bras, elle l'a présentée à la Convention en disant « Ma petite fille, voici ton père », et en se tournant à la Convention en disant « Peuple, voici ta fille », donc elle a été adoptée par le peuple français, par l'intermédiaire de la Convention, etc. etc. Et comme la roue tourne et que la Convention montagnarde a fini par tomber, que la réaction thermidorienne est arrivée, on a dit un jour « Il faut décrocher ce truc-là, on va pas laisser ça ». Donc David a demandé à la Convention l'autorisation de récupérer son tableau. Il est parti avec. Il l'a mis à l'abri pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il l'a laissé dans son école, probablement recouvert d'une couche de blanc. Ensuite, les événements ont fait que David a quitté la France et qu'il est parti se réfugier en Belgique. Et il y est mort. Et un jour, ses héritiers, ses enfants ont dit... ben on va vendre les tableaux de notre père, parce qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'argent à se faire. C'était quand même le maître de l'école classique, et il y avait énormément d'argent à se faire. Et le fameux tableau représentant Michel Le Peltier a été annoncé comme étant mis en vente. Et à ce moment-là, la fille de Michel, c'est-à-dire Suzanne, qui était devenue une jeune femme, qui s'était mariée, elle était, paraît-il, de toute beauté, c'était, paraît-il, une jeune femme absolument délicieuse, gracieuse, joyeuse, qui menait, c'était une des plus riches jeunes femmes de France, hein, avec ce que son père lui avait légué. Alors, ce qui est intéressant de montrer, quand même, c'est que Michel Le Peltier, il a perdu la vie, mais il a gardé tout son patrimoine. Hein. Il n'y a pas eu la moindre expropriation sur ses domaines. Rien! Sa fille a hérité intégralement de tout ce que son père avait avant la Révolution.
Et notamment du château de Saint-Fargeau.
Château de Saint-Fargeau. Donc, quand Suzanne a su que le tableau représentant son père allait être mis en vente, elle l'a acheté au prix qu'on a voulu. Et c'est un prix absolument hallucinant.
Elle acquiert le tableau en 1826.
C'est une, 1826.
Elle a 43 ans.
Elle a 43 ans. Elle a eu beaucoup de malheur. Elle a été quand même veuve deux fois de suite. Mmh. Le bonheur ne voulait vraiment pas d'elle. Elle était maman de deux jeunes filles. Et elle a payé le prix qu'on lui a demandé pour récupérer ce tableau. Elle ne voulait absolument pas que ce cher tableau de son cher disparu, c'est comme ça qu'elle parlait de son papa, tombe entre les mains d'étrangers. Donc elle a récupéré ce tableau et elle a dépensé, après avoir dépensé à l'acheter, elle a dépensé également à faire recouvrir « Je vote la mort du tyran ». Parce qu'elle ne pouvait pas supporter, elle avait épousé un royaliste. Elle est passée complètement du côté de la réaction. Alors on ne sait pas quelles étaient véritablement ses opinions pendant la Révolution française. On sait simplement qu'elle était à l'abri et qu'il lui est rien arrivé de mal. Mais elle a joué le jeu de la Révolution. C'est comme ça qu'elle et ses gens ont réussi à passer au travers. Mais dès que la Révolution a été terminée, elle est passée ostensiblement, ouvertement, du côté des royalistes, des monarchistes. Elle a épousé un monarchiste. Elle faisait partie vraiment des gens qui ont exécré, abhorré et vomi la Révolution. Donc elle a récupéré ce tableau dont elle a fait effacer. Mais il fallait que ce soit bien fait, parce qu'il ne fallait pas que ça fasse un pâté au milieu du tableau. Elle a fait par un peintre
« Je vote la mort du tyran ».
Elle l'a fait retirer, donc le tableau ne représentait plus que son père sur son lit de mort. Et on a des lettres, on a retrouvé des lettres échangées entre Suzanne et son oncle Félix, où elle parlait de l'état d'avancement des travaux sur le tableau, où elle parlait de... elle avait très très mal aux jambes et qu'elle avait de la peine à monter l'escalier et aller voir le tableau de son cher disparu. Donc elle fait montre de beaucoup d'attention pour la conservation de ce tableau.
Il n'est donc pas possible, comme l'affirme Madame Delage de Volude, que le tableau ait pu être brûlé devant témoin.
Alors, s'il a été brûlé devant témoin, ça ne peut pas être elle qui l'ait demandé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Oui, parce qu'elle aurait fait corriger, faire disparaître.
Voilà, elle aurait fait corriger un tableau dont elle dit...
Pour le détruire après.
Voilà, non, mais ça n'a pas de sens. Elle a voulu sauver ce tableau parce que ça représentait son père et que c'est tout ce qui lui en restait. Elle a écrit à son oncle...
Oui, mais Marion, je te prie de m'excuser. Oui. Elle aurait très bien pu faire détruire le tableau de manière cathartique pour oublier cette horreur de la Révolution, elle qui était complètement acquise aux idées royalistes, totalement donc anti-républicaines.
Mais alors elle a retiré ce qui pouvait évoquer la politique et elle a conservé un portrait de son père. Elle a conservé un tableau représentant son père, son cher disparu. C'est tout. Et elle explique. Alors à un moment donné, Félix lui envoie une lettre en lui disant qu'il craint qu'elle détruise le tableau. Et elle lui répond, comment pouvez-vous imaginer que je ferai une chose pareille? Ça n'a pas de sens. Donc elle le dit qu'elle ne le fera pas.
Alors où est le tableau à l'heure actuelle?
Alors le tableau, qu'est-ce qui est arrivé avec ce tableau? À la mort de Suzanne, qui est morte jeune, le tableau a été emporté et mis à Saint-Fargeau, dans le château de Saint-Fargeau. Il y est rentré, il n'en est pas ressorti. Moi, à mon avis, il y est encore. Mais le tableau de Saint-Fargeau, c'est quand même une gigantesque demeure avec des murs qui font 6 mètres d'épaisseur. Un tableau, quand c'est roulé dans un tube de cuivre, vous mettez ça entre 4 pierres, vous enfoncez ça, vous remettez un petit peu de chaud par devant, ni vu ni connu, c'est introuvable.
Donc pour toi, je défends l'idée selon laquelle ce tableau est roulé dans l'épaisseur d'un mur ou d'un plafond du château de Saint-Fargeau.
Absolument. Moi, je ne vois aucune autre hypothèse. Je ne vois aucune autre hypothèse. Pour moi, ce tableau, il est rentré dans le château, il n'en est jamais ressorti. Et ce qu'on raconte, qu'il a été détruit, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Je ne crois pas à cette hypothèse-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu se faire valoir en jouant les informés. Vous savez, quelqu'un m'a dit que, etc. Ça n'a pas de sens. D'autant que, alors, il faut quand même savoir que l'actuel propriétaire du château de Saint-Fargeau s'est engagé, s'y retrouvait le tableau, à le donner aux musées nationaux. Donc ça veut bien dire que dans la tradition familiale du château de Saint-Fargeau, on sait que le tableau est là, on ne sait simplement pas où il est, et qu'un jour quelqu'un le retrouvera. Donc il y a plusieurs sources tout à fait crédibles qui font comprendre que le tableau n'a jamais été détruit. C'est le fait que Suzanne elle-même se soit insurgée contre le fait qu'on ait pu penser une chose pareille, le fait qu'il y a une tradition dans la région qui dit le tableau, il y est encore, et la tradition orale fait partie des sources historiques, même si ça a l'air un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des gens, encore à Saint-Fargeau, aujourd'hui, qui vous disent, non, le tableau, tout le monde sait qu'il est rentré, il n'est pas sorti, et que personne ne l'a détruit. Et il y a aussi le fait que ceux qui ont dit que le tableau avait été détruit ne sont pas crédibles. Ne sont pas crédibles. C'est du ragot. Alors, où est-il, ce tableau? Alors là, je pense que Michel Guyot serait content de le retrouver. Michel Guyot, c'est l'actuel propriétaire du château. Je pense que Jean d'Ormesson serait content qu'on le retrouve aussi, puisque Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau est son aïeul. Hein, Jean d'Ormesson est le descendant direct d'une des filles de Suzanne, donc de Michel. Et il a lu le livre et il s'est dit intéressé par mon hypothèse. Donc, il n'a pas dit qu'il la corroborait, mais il estime qu'elle est tout à fait crédible. Et voilà, est-ce qu'on va retrouver le tableau un jour ou l'autre? Je ne sais pas. Moi, je suis persuadée qu'il est là-dedans. Alors, il y a des gens qui sont venus avec des pendules, il y a eu des cinglés qui sont venus expliquer qu'ils allaient retrouver le tableau. Pour l'instant, il est introuvable. Moi, je pense qu'il ressortira. Je ne sais pas quand, mais il ressortira.
On va se quitter sur ce mystère. Donc, Marion Sigaud, qui était donc notre invitée ce soir, historienne et auteure donc de ce livre passionnant, que je recommande à nos auditrices et auditeurs, Le mystère du tableau de David. C'est paru aux éditions de Bourgogne, on le trouve dans toutes les librairies de la Bourgogne, et c'est signé Marion Sigaud. Merci Marion pour cet enthousiasme, ce souffle sur l'histoire et sur ce mystère. Que tu explores dans ce très beau livre, Le mystère du tableau de David. Merci Marion.
Merci.
Avant de nous séparer, une petite information. Sachez que le 14 janvier prochain, samedi 14 janvier à 19h, aura lieu à la librairie Oblique rue Joubert à Auxerre le lancement de la revue Carré. La librairie Oblique, effectivement, accueillera les créateurs et les contributeurs d'une toute nouvelle revue littéraire auxerroise. Il s'agit donc de la revue Carré, publiée avec le concours des éditions Rhubarbe. Entre autres invités, Alain Quévès, Jean-Paul Rousseau, Alain Moret et bien d'autres. Je rappelle que cette revue Carré est en vente notamment en librairie et notamment à la librairie Oblique. Terminus de ce train, tout le monde descend, prochain départ 21h mercredi prochain, 18 janvier. Il sera question d'éthique et d'Épicure en compagnie de Jean-François Malherbe, docteur en philosophie et docteur en théologie. Rendez-vous mercredi prochain, excellente fin de soirée sur Radion. Merci de votre fidélité, au revoir à toutes et à tous.